Voici l'explication sur le texte tiré de Gargantua, l'abbaye de Thélème. C'est le texte 3 pour Gargantua. Je ne reprends pas la présentation générale, vous reprenez celle qui a été faite en classe pour le texte numéro 1. Si l'on veut présenter le passage, on peut se centrer en fait sur la notion d'idéal, parce que Rabelais, en fait, dans ce passage très connu de l'abbaye de Thélème, s'intéresse à un idéal pédagogique et également à un idéal de vie. On est donc dans l'utopie. En effet, le passage se situe au chapitre 57, à la fin du livre, après la guerre que Grand Gousier, le père de Gargantua, a menée contre Picrocole. Il s'agit de récompenser frère Jean des Entômeurs, qui est un frère qui a participé à la victoire de Grand Gousier. Et donc Gargantua lui demande au frère Jean ce qu'il veut, et il s'agit de fonder une abbaye pour frère Jean selon ses voeux. On a donc plusieurs chapitres qui sont consacrés à l'abbaye de Thélème, à partir du chapitre 53, qui décrivent en particulier l'architecture et les loisirs dans cette abbaye. Notre chapitre est plutôt centré sur la description du fonctionnement de cette abbaye. On est ici dans un passage qui reprend un genre traditionnel qui est celui de l'utopie. Ce genre a été créé par l'écrivain anglais Thomas More en 1516 avec son livre « Utopia ». L'utopie, eh bien, c'est un lieu qui n'existe pas, un lieu idéal, mais qui permet, par contrepoint, de porter un regard critique sur la société dans laquelle l'écrivain évolue à sa propre époque. Ici, on peut également considérer que ce passage est un apologue. Alors, un apologue, c'est un récit qui vise à un enseignement, qui vise à une réflexion morale. On peut distinguer trois parties dans le texte. Tout d'abord, un mode de vie idéal dans le premier paragraphe, puis des valeurs idéales dans le deuxième paragraphe, et enfin, dans le dernier paragraphe qui est plus court, des relations amoureuses idéales. Et on pourra donc se demander en problématique dans quelle mesure on peut parler ici d'utopie, ou bien on peut également se demander dans quelle mesure également l'abbaye de Thélème constitue un idéal. On commence l'analyse linéaire. Alors, tout d'abord, le début du texte, toute leur vie, tout est un déterminant indéfini qui est totalisant, globalisant, et donc qui suggère une implication totale des personnes, des télémites. En fait, les habitants de Thélème sont appelés des télémites dans le système qui leur est proposé. Était organisé, on est ici dans la description d'un monde qui possède sa propre logique, qui est autonome. Et cette originalité, elle est énoncée ensuite par la négation, non par des lois, des statuts ou des règles, mais selon le vouloir libre arbitre. Les lois, les statuts et les règles existent dans le monde réel et sont remplacées dans cette utopie par la liberté, qui est vraiment la valeur essentielle qui va prédominer dans cette abbaye. On va le voir tout au long du texte avec le champ lexical de la liberté, par exemple dans les lignes 1-2, vouloir et libre arbitre. Ici, cette opposition est mise en valeur par le balancement rhétorique, non par, mais selon. On a un texte qui est un texte engagé, qui est un texte qui est de l'argumentation indirecte, et donc on va avoir une construction logique récurrente tout au long du texte. Et on a donc, dans ce balancement, un effet d'antithèse, d'opposition entre les lois, les statuts, les règles et la liberté évoquée à la ligne 2. Cela peut sembler paradoxal pour une abbaye de mettre en avant la notion de liberté, puisque normalement il s'agit d'un univers qui est vraiment régi par des règles très strictes. Étymologiquement, le nom de Thélème signifie « libre volonté ». Mais il y a vraiment une insistance dès le début du texte sur la très grande liberté dont jouissent les télémiques. On a donc déjà une confrontation entre l'utopie, ce qui est décrit dans le texte, et la réalité des abbayes à l'époque de Rabelais. On a ensuite une phrase qui, à l'imparfait, va énumérer les activités des télémites, leur emploi du temps, qui est très libre, puisqu'il n'y a pas de contraintes comme dans l'éducation de Gargantua. On peut donc se demander déjà si Rabelais va adhérer à ce programme idéal, puisque son idéal d'éducation a été énoncé lorsqu'il a lorsqu'il a mis en scène l'éducation de Gargantua. Et ces verbes d'action qui ponctuent la journée, donc se levait, semblait, buvait, mangeait, travaillait, sont accompagnés de compléments circonstanciels de temps qui soulignent l'autonomie de ses habitants. Quand bon leur semblait, quand le désir leur en venait. On a donc à nouveau la notion de liberté qui est évoquée. Il s'agit ici de l'évocation d'une vie heureuse, loin des règles des abbayes traditionnelles, puisque ce n'est pas le travail ou la prière qui guide les télémites, mais c'est plutôt la satisfaction de leurs désirs. On trouve ensuite, en fin de phrase, après une rupture marquée, une pause marquée par le point-virgule, la répétition du pronom indéfini « nul, nul », qui marque un rejet d'un autre mode de vie que celui des télémites. Enfin, ainsi l'avait établi Gargantua, on a une phrase qui est emphatique, c'est-à-dire qui n'est pas construite de façon traditionnelle avec le sujet en premier, Gargantua l'avait établi. Cela permet en fait de mettre en valeur le rôle majeur de Gargantua, qui se trouve, le nom se trouve positionné en fin de phrase, qui incarne Gargantua, le modèle du bon prince. Gargantua, dans tout le livre, est censé incarner le représentant de l'humanisme, un homme idéal dont la taille est proportionnelle à la sagesse. On a ensuite la règle qui règne dans cet abbaye, « Fais ce que voudra », donc elle est mise en valeur car elle est en majuscule, c'est une règle qui est très connue. On peut noter qu'elle est extrêmement paradoxale, puisque l'impératif fait s'oppose avec la liberté du verbe vouloir. Donc le paradoxe en fait revient à la capacité des télémites à intégrer librement une règle contraignante. Donc on a ici en peu de mots, un résumé du premier paragraphe. Donc, si on fait le bilan de cette première partie, on voit bien que le principe majeur de l'abbaye de Thélème, c'est la liberté, c'est le fondement qui va régir toute la vie de la communauté. Dans le deuxième paragraphe, on va avoir une description des qualités des télémites. Alors, l'énumération de leurs qualités, gens libres, bien nés, bien instruits, qu'on va trouver dans une énumération avec un rythme ternaire, gens libres, bien nés, bien instruits, semble faire d'eux une élite. Le champ lexical qui est employé à leur sujet est amélioratif. On est donc dans des personnages idéaux qui n'existent pas dans la réalité. On peut noter dans le paragraphe une opposition entre le champ lexical de la vertu, honnête, vertueux, éloigné du vice, honneur, opposé au champ lexical du mal, vile servitude, assujettis, déchoir. Et en fait, ce qui est mal, c'est la servitude. L'honneur est donc le symbole le sens de l'honneur est donc le symbole de ces personnages qui paraissent appartenir à une certaine catégorie sociale. Sans doute sont-ils exclusivement des personnages de la noblesse. Ensuite, on peut noter que le début de proposition, décidément, on par nature, insère les télémites dans une sorte d'étude psychologique de l'être humain. En effet, ce qui est bien mis en valeur dans ce paragraphe, c'est la tendance de l'homme à désirer vouloir s'affranchir des contraintes, alors qu'il s'agit pour les télémites de les accepter naturellement. On peut remarquer dans la dernière phrase, « Nous entreprenons toujours les choses défendues et convoitons ce qui nous est refusé que l'emploi du pronom « nous » inclut le narrateur et le lecteur. Rabelais nous montre ainsi que les télémites sont des personnages qui nous ressemblent, mais ils ont quelque chose en plus, un sens très affirmé en fait, de la liberté. Et donc on peut remarquer que cette maxime est énoncée au présent de vérité générale comme toute maxime. Grâce à cette liberté, on passe ainsi dans le troisième paragraphe, donc c'est toujours la liberté qui fait le lien entre les différents éléments du texte. On va avoir un paragraphe qui va illustrer maintenant la façon dont les Télémites vivent ensemble. Et donc, on va avoir une description de leurs activités plus précises dans la journée. On peut remarquer qu'il va y avoir dans ce paragraphe un jeu entre le groupe, donc au pluriel, et les individus. On peut le noter, par exemple, dans l'expression « tous ensemble » et « si l'un ou l'une ». Et ensuite, on va avoir tout un paragraphe qui est construit en fait sur des propositions qui s'enchaînent et qui commencent par des hypothèses. S'il disait, si c'était, donc il met en scène un individu avec une reprise dans les autres phrases par l'activité, par l'ensemble de l'activité par l'ensemble du groupe. On peut donc remarquer que ces propositions s'enchaînent par parallélisme, avec un usage répété de la conjonction de subordination « si »,« si »,« si »,« s'il disait »,« si c'était »,« s'il disait ». Et il y a une absence de contestation, il y a une adhésion immédiate à la proposition qui est faite dans ces propositions hypothétiques. Si l'un d'entre eux disait « buvait », tous « si l'un d'entre eux disait « buvons », tous buvaient. S'il disait « jouons », tous jouaient. On a donc dans ces phrases également une multiplication du polyptote, c'est-à-dire de l'emploi d'un verbe avec des formes différentes. Par exemple, « buvons » à la première personne du pluriel, « buvaient » à la troisième personne du pluriel, et c'est la même chose pour « jouons ». On voit aussi qu'il n'y a pas de différence entre les sexes, tous participent aux activités dans une bonne humeur qui semble montrer une égalité à l'accès au bonheur entre tous les participants à ces jeux. La seule activité qui va différencier les Télémites les uns des autres, c'est la chasse. On va avoir mention en effet des dames qui montent sur des chevaux avec une expression valorisante comme « belle Aconée » et une énumération qui valorise aussi cette activité de chasse avec la mention des oiseaux de chasse épervier, lanier et mérillon qui sont normalement le propre d'individus appartenant à la noblesse et l'activité des hommes et de se mettre en fait au service des femmes en portant les autres oiseaux. On voit que ici, dans la vie à Télème, on a une cohérence en fait entre tous les participants, tous les membres de l'abbaye, et que l'adhésion et l'entente est parfaite. Ce qui semble relever en revanche mais également de l'utopie, c'est que les activités sont réduites au seul plaisir. On est donc dans un lieu parfait qui n'existe pas. L'individu appartient à la communauté et s'y épanouit parfaitement. Un idéal humain est ici défini. On a ici en fait l'idéal de ce que serait une société humaniste, faite de savoir et d'harmonie. C'est une vision optimiste, mais Rabelais, bien sûr, lorsqu'il écrit ce passage dans Gargantua, est conscient qu'il ne s'agit que d'un rêve. Et encore une fois, vraiment, ce qui semble être plutôt l'éducation humaniste chère à Rabelais est celle de Gargantua, lorsque son maître Ponocrates va lui enseigner l'éducation humaniste. Alors, le dernier paragraphe insiste ensuite sur les savoirs qui vont être ceux des Télémites. En effet, on nous dit au début du paragraphe qu'ils sont noblement instruits. Il y a toujours une opposition entre le groupe « ils étaient » et les individus, qu'il n'y en avait aucun. On a également une répétition qui va ponctuer le paragraphe avec l'adverbe « si, 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 si » qui est au superlatif et qui montre un idéal humaniste porté au superlatif, donc porté à l'apogée des qualités qu'on peut posséder. On peut remarquer que les activités et les aptitudes qui sont décrites ne sont pas le fait de quelques individus, mais qu'elles ne comportent aucune exception. Et on peut remarquer également que les savoirs traditionnels et artistiques sont mélangés dans une même énumération. Chevalier si preux, si belle allure, si adroit, si vigoureux, si alerte, jamais dame si élégante, si mignonne, moins acariâtre, plus adroite aux travaux manuels. Alors il y a bien une distinction entre les activités des hommes et des femmes, mais tous en fait sont performants dans ces activités et il est déjà, même s'il y a une distinction entre l'éducation qui entre les activités des hommes et des femmes, c'est très moderne pour l'époque de Rabelais d'imaginer que les femmes ont leur propre éducation. Il s'agit ici donc d'une éducation idéale qui concerne à la fois les domaines artistiques, donc instruments de musique, les langues, les qualités physiques, preux, belle allure, adroit, pied à cheval, et les qualités manuelles, avec travaux manuels, broderie. On termine enfin par une mention à la renouvelée à la liberté. À la fin du paragraphe, une femme libre et honnête, cette notion de liberté est donc prédominante, comme on l'a dit en début de paragraphe, dans tout le texte. Enfin, le dernier paragraphe, qui est plus court, va aborder la notion du mariage. Il est ici expliqué que les Télémites se marient les uns entre eux. En effet, il est difficile de trouver un meilleur conjoint ailleurs qu'au sein de l'abbaye, et le monde extérieur est montré comme une contrainte, la requête des parents pour toute autre cause. Et en fait, on a un idéal également dans cette notion de mariage, idéal qui n'est pas du tout en application à l'époque de Rabelais, puisqu'il s'agit ici de se choisir librement, sans aucune contrainte sociale. La dame, comme dans la tradition de l'amour courtois, est à l'initiative de cette décision. C'est la dame qui choisit son conjoint, ce qui est bien sûr très éloigné des pratiques de l'époque. Et le mariage est donc la version ultime de cette liberté qui prône totalement dans l'abbaye. La conclusion du texte, il se mariait, ressemble à celle d'un conte de fées dans un monde idéal. Et donc, on peut se demander en conclusion pourquoi Rabelais en fait offre un dénouement merveilleux à son livre, puisque ce chapitre est l'avant-dernier merveilleux ou idéal, puisque ce chapitre est l'avant-dernier de Gargantua. En fait, il s'agit de mettre en scène donc une société idéale, ce que souhaite en fait à travers cet idéal, ce que souhaite Rabelais à travers cet idéal, c'est critiquer la société dans laquelle il vit. On voit bien qu'ici, en fait, on est à la limite de la parodie, de ce que peut être une abbaye à l'époque, puisque la vie monastique est à l'opposé, en réalité, de ce qui est décrit dans l'abbaye de Thélème. Thélème est une sorte de monastère à l'envers. Il n'y a aucune mention dans le texte d'activité humaine, de culte ou de prière. Finalement, la seule dévotion, la seule culture de l'amour de quelqu'un qui existe et celle du seigneur pour sa dame ou de la dame pour son seigneur. Et la portée critique en fait de la religion est portée aussi par la devise « fais ce que voudra », parce qu'en fait cette devise est une formule de saint Augustin qui est la suivante « aime, crains Dieu et fais ce que voudra ». Et donc Rabelais reprend cette formule mais en enlevant Dieu, en enlevant le « aime, crains Dieu ». Et donc, c'est un peu comme si les Télémites pouvaient faire sans l'existence de Dieu, ce qui est bien sûr sacrilège à l'époque. En ouverture, ben, on peut parler de toutes sortes d'autres livres qui vont aborder des utopies ou même des dystopies, par exemple 1984 de George Orwell. Voici l'enregistrement du texte 2 de Gargantua, Le Conseil de Picrocole. On est dans le chapitre 33. Pour l'introduction, je ne reviens pas sur la présentation générale, vous l'avez dans le texte 1 et je m'attache à présenter l'extrait lui-même. Donc il s'agit d'un extrait du chapitre 33 qui est consacré en fait à un conseil de guerre entre Picrocole et ses conseillers. Il faut savoir que dans Gargantua, les rois sont mis en scène de façon à être opposés. Ils sont mis en scène en diptyque. Ainsi, Picrocole, qui est le roi mauvais, le roi expansionniste, s'oppose à Grand Gousier, qui est le roi humaniste. Et donc, il faut avoir à l'esprit, en analysant cet extrait, que le comportement de Picrocole va toujours être en opposition avec celui de Grand Gousier dans le reste du roman. Les conseillers de Picrocole viennent voir ce dernier pour lui proposer une stratégie de conquête. Et donc, on va avoir en fait dans une première partie de la ligne 1 à la ligne 12, la parodie d'un conseil de guerre. Puis à partir de la ligne 13, une démonstration du rêve d'hégémonie, c'est-à-dire de conquête totale de Picrocole et la dénonciation de ce qui est la guerre de conquête, sachant que en filigrane, on a une dimension historique dans ce texte, puisque Grand Gousier est le roi humaniste comme pouvait l'être François Ier, alors que Charles Quint, qui est le roi expansionniste, peut être considéré comme étant représenté par Picrocole. On peut se demander en problématique en quoi cette scène ou scénette de comédie, parce qu'on a bien sûr un côté comique et parodique dans le texte, permet à Rabelais de se moquer de la folie guerrière. Je commence la lecture linéaire. Alors, l'extrait commence par un rappel de l'objet litige, donc les fois se dérober, puis on a la mention des trois conseillers, donc le duc de Mesnoailles, le comte Spadassin et le capitaine Merdaille à la ligne 1. On peut remarquer tout de suite que leurs noms sont dépréciatifs, puisque Mesnoailles veut dire petit peuple ou canaille. Spadassin veut dire mercenaire, donc il y a une dévalorisation de l'aspect guerrier ou outrancier des conseillers de Picrocole. Et le capitaine Merdaille, on retrouve ici l'aspect scatologique de Gargantua, le radical étant complété, qui est péjoratif par nature. Étant complété par un suffixe péjoratif lui aussi, aïe. On va noter ensuite que ces conseillers parlent d'une même voix, quand on passe au discours direct à partir de la ligne 3, qu'ils se confondent en une seule, ce qui est le signe d'un manque de personnalité. Ils s'adressent au roi de façon hyperbolique, au superlatif, le prince le plus valeureux, le plus chevaleresque, et il s'agit par la continuation dans la suite de la phrase de l'hyperbole, qui n'ait jamais été de l'hyperbole temporelle, qui n'ait jamais été depuis la mort d'Alexandre de Macédoine, de comparer Picrocole au plus grand conquérant, Alexandre de Macédoine étant Alexandre le Grand, conquérant illustre dans l'Antiquité. On voit donc d'emblée que ces personnages sont des flatteurs et que cette parole à la ligne 5 opère immédiatement sur Picrocole, puisque celui-ci leur demande de se recouvrir, ce qui est signe qu'ils invitent à poursuivre et qu'ils rentrent donc dans ce jeu de flatterie dont il est la dupe volontaire. À partir de la ligne 6, les conseillers vont énoncer leur plan. Voici ce que nous proposons. Il s'agit tout d'abord de protéger le peuple de Picrocole. Vous laisserez ici quelques capitaines en garnison avec une petite troupe. On peut remarquer que peu de moyens sont mis à la protection du peuple de Picrocole, et ce d'une façon assez vague, quelques capitaines, petites troupes, semblent assez fortes, et que en fait, l'objectif des conseillers et leur ambition est celle de la conquête, pour laquelle ils gardent des forces, et donc on peut douter du côté bienveillant du roi que peut être Picrocole s'il ne se consacre qu'à la conquête. Alors il s'agit de diviser l'armée en deux, on peut remarquer que les conseillers, de façon ponctuelle, vont toujours flatter Picrocole. Par exemple, à la ligne 8, il est mention des remparts dus à l'ingéniosité de Picrocole, ou à la ligne 9, l'expression « comme bien vous comprenez » fait appel à l'intelligence guerrière de Picrocole, qui est mis de connivence avec le plan qui lui est proposé. On peut toutefois douter de l'honnêteté du plan qui est proposé, puisqu'à la ligne 9, il y a le verbe « se ruer » qui appartient plus au vocabulaire du pillage que de la guerre, et il y a une dépréciation rhétorique de Grand Gousier avec le présentatif « ce » ainsi que de « ces gens ». La guerre à la ligne 10, la conquête semble se dérouler sans anicroche. Il n'est absolument pas envisagé d'obstacle dans ce plan de conquête, avec l'adverbe par exemple facilement ou dès le premier assaut. De la ligne 10 à la ligne 12, on a le développement d'un syllogisme, c'est-à-dire d'un raisonnement qui semble en apparence logique, mais qui en réalité a un contenu qui est faussé. En effet, à la ligne 10, les conseillers font appel à l'appât du gain, vous récupérez de l'argent en masse, et ils supposent en fait que Grand Gousier a beaucoup d'argent. Ils en profitent pour dévaloriser Grand Gousier en le qualifiant de vilain. Donc un vilain à l'époque, c'est quelqu'un qui appartient au bas peuple. En énonçant une maxime au présent de vérité générale, nous disons vilain parce qu'un noble prince n'a jamais un sou, ce qui veut dire en fait que selon eux, un prince n'a pas de sous, ce qui sous-entend que les princes dépensent l'argent par exemple pour la guerre ou pour leurs propres besoins. Et le raisonnement est le suivant, donc si un prince n'a pas d'argent, Grand Gousier n'est pas un prince puisque lui a de l'argent et donc il est un vilain. Et ce syllogisme est répété pour que la théorie de ses conseillers rentre dans la tête de Picrocole, thésaurisé, c'est bon pour un vilain, à la ligne 11-12. On voit donc que les conseillers de Picrocole sont d'habiles rhétoriqueurs. Ils savent très bien manier le langage et surtout manipuler Grand Gousier. Ensuite, à partir de la ligne 13, on va avoir le développement du plan d'attaque, du plan d'extension. C'est une sorte de manipulation rhétorique très développée qui est énoncée au futur. C'est une prolepse, c'est-à-dire une projection dans le futur, avec une énumération qui est celle des territoires appartenant à Grand Gousier, donc l'Aunis, la Saintonge, l'Angoumois, la Gascogne, le Périgord, le Médoc, les Landes. Donc on note que les territoires sont conquis sans aucune résistance. C'est ce qui est mentionné à la ligne 14, et que ces conquêtes, que le nom de ces conquêtes en fait suffisent d'une certaine façon à montrer, il suffit en fait de les nommer pour qu'elles soient conquises. Il y a un côté magique dans cette énumération et flatteur pour Grand Gousier. On peut noter qu'ensuite, à partir de la ligne 15, ces conquêtes s'étendent à la ligne 14, la phrase « Ils prendront ville, château et forteresse » fait un résumé par métonymie des conquêtes qui sont supposées être celles de Picrocole, avec une gradation, puisque les villes sont ce qui est le plus facile à prendre et les forteresses sont ce qui est le plus difficile à prendre. Ensuite, à partir de la ligne 15, on a une extension de cette conquête avec les mentions de Bayonne, Saint-Jean-de-Luz et Fontarabie. Cette conquête s'étend également au domaine maritime, vous saisirez tous les navires, et va s'étendre à des pays étrangers, la Galice et le Portugal. Le mot « pillerer n'est pas un mot adapté, il s'agit comme le verbe « se ruer » d'un verbe qui indique plutôt, qui relève du domaine du pillage. La mention de Lisbonne, qui est la capitale du Portugal, montre un point culminant dans le domaine de la conquête du Sud. Et on peut noter que les conseillers de Picrocole sont soucieux de le mettre en position de sujet, c'est-à-dire que c'est lui qui est à l'origine de toutes ses actions, avec « vous saisirez, vous pillerez, vous aurez un renfort ». Donc ici, il s'agit de rappeler le rôle essentiel de Picrocole dans cette conquête. Ce qu'on peut remarquer, c'est que cette tirade se poursuit ensuite avec une ponctuation par l'emploi de cordieux, qui est un juron, mais qui ici ponctue le langage, comme si c'était une impulsion pour continuer cette conquête imaginaire et qu'elle se déroulait en direct sous les yeux de Picrocole. Cette énumération et ce paragraphe ont une fonction d'hypotypose, comme si la conquête se produisait directement se produisait directement sous les yeux de Picrocole. Et ensuite, donc, on aborde un nouveau pays, l'Espagne, avec une expression dévalorisante pour les Espagnols, ce ne sont qu'en des rustres, ce qui est une contre-vérité historique, puisqu'à l'époque, l'Espagne est un pays conquérant. La suite de ce paragraphe relève du fantasme. Il s'agit à nouveau de flatter Picrocole. Ce dernier est comparé non plus à un conquérant, mais à un célèbre héros de la mythologie. Donc on avance d'un degré encore, puisqu'il s'agit de donner une dimension mythique aux conquêtes de Picrocole, avec la mention d'Hercule et de ses colonnes. C'est une référence qui est ironique, puisque Charles Quint avait pour emblème deux colonnes qui symbolisaient l'immensité de ses conquêtes. Donc derrière Picrocole, bien sûr, il faut se souvenir qu'il y a la dénonciation de l'impérialisme de Charles Quint. Donc il s'agit de rentrer dans le mythe, c'est-à-dire d'inscrire le souvenir du nom, comme il est mentionné à la ligne 19 de Picrocole. On a ensuite un effet assez comique qui est donné par le fait que les mers franchies sont rebaptisées du nom de Picrocole, donc mer Microcolline, et l'enchaînement à la ligne 20, passer la mer Picrocolline, entérine en fait la conquête de cette mer, c'est un raccourci qui a vraiment un effet comique. Et le présentatif, voici, rappelle en fait l'hypotypose, donne l'impression que cette conquête se déroule en direct. Il faut savoir que Barberousse était un corsaire ottoman, donc un personnage réel. Donc ici, il y a vraiment une référence à la réalité à l'époque de Rabelais, qui aida François Ier contre Charles Quint en Méditerranée. Et donc c'était un grec converti à l'islam qui était donc du côté de François Ier, et donc il y a une forme de jouissance pour Picrocole qui représente Charles Quint de prendre en otage Barberousse qui est donc du côté de François Ier. On assiste en fait à une scène vraiment comique parce que on voit avec la réponse de Picrocole « Je lui ferai grâce » qu'il est totalement rentré dans la comédie et qu'il, de façon familière, on peut dire qu'il s'y croit. Et donc le fait que ce roi soit totalement pris dans l'évocation qui lui est faite par ses conseillers et qu'il joue le jeu en se projetant dans cette guerre de conquête a un côté amusant. Et ce qui est amusant également, c'est qu'il se pose en roi débonnaire avec « Je lui ferai grâce ». Les conseillers enchaînent en jouant le jeu, à condition qu'ils se fassent baptiser. Et ils en profitent pour continuer leur description. Alors, on a une sorte de litanie de lieux qui se poursuit, mais en fait, le théâtre des opérations se déplace et se concentre sur le territoire des infidèles, les territoires des musulmans. Donc Tunis, Hippone, Alger, Bonne, Cyrène, Ardimantes, la Barbarie. Alors, on a des vrais noms, mais on a aussi des noms fantaisistes, par exemple la Barbarie, qui fait référence aux États d'Afrique du Nord appelés barbaresques. Ici, la cible de la satire de Rabelais est vraiment Charles Quint, qui a conquis l'islam et qui a mis à sac Tunis en 1535 en luttant contre les troupes de Barberousse. On a ensuite à nouveau une litanie de noms qui sont des noms d'îles en mer, donc à nouveau la conquête maritime, Majorque, Minorque, la Sardaigne, la Corse, les autres îles du Golfe, de Gênes et des Baléares. On a une mention amusante de nouveaux territoires, la Gaule narbonnaise, la Provence et le pays des Allobroges, parce que ce sont des territoires qui ont été conquis par Jules César à l'époque, et la Gaule narbonnaise n'existe plus. Les conquérants donc se rapprochent de l'Italie, et la figure du pape est convoquée de façon caricaturale. Le pauvre monsieur du pape en meurt déjà de peur. Alors c'est irrévérencieux, puisque normalement on désigne le pape avec respect à l'époque. Il s'agit en fait, et on s'attaque à un domaine auquel on ne s'attaquait pas d'habitude, à savoir le Vatican et la religion catholique. À nouveau, Pic Rocolle réagit en montrant sa totale crédulité, son adhésion et sa projection dans cette guerre de conquête, en montrant qu'il ne s'abaisse pas à négocier avec le pape. Je ne baiserai pas sa pantoufle. C'était à l'époque qu'il était d'usage de baiser la pantoufle du pape. La dernière vision qu'on peut avoir de Pic Rocolle, c'est donc celle d'un roi crédule, totalement à la merci de ses conseillers, qui sont des conseillers manipulateurs, stupides, mais très doués dans l'art de la rhétorique. Alors, en conclusion, on peut dire qu'il s'agit d'une scène de comédie dans laquelle Rabelais use du discours parodique. Il s'agit de dénoncer la folie expansionniste de certains rois, en particulier de Charles Quint, et donc par le biais de l'imagination et de l'imaginaire, puisque les personnages qui sont mis en scène sont imaginaires, il s'agit quand même de dénoncer une réalité bien présente à l'époque, à savoir les conquêtes de Charles Quint. Ce qu'on peut dire, c'est que à la fin de ce délire collectif, dans la suite du texte, il y a un vieux conseiller qui s'appelle Échéphron, qui signifie le prudent, qui tente de mesurer Pic Rocolle, mais il ne sera pas écouté. On peut dire en ouverture que la défaite de Pic Rocolle dans Gargantua signifie la fin d'un monde ancien, ou l'espérance pour Rabelais de la fin d'un monde qu'il veut considérer comme ancien, c'est-à-dire celui des conquêtes guerrières et des combats guerriers sans fin. Voici l'enregistrement pour le texte La Panthère des Neiges, Les Enfants du Vallon. Il s'agit du texte 4 pour Sido de Colette. Je reprends rapidement ce qu'on peut dire en introduction sur Sylvain Tesson, mais il s'agit d'aller vite sur cette partie. Donc, c'est un écrivain et explorateur français. Et ses différents récits en fait, relatent ses voyages au bout du monde en 2018. Donc un de ses amis, Vincent Munier, qui est un photographe animalier, lui propose d'aller au Tibet à la recherche de la panthère des neiges. Vincent Munier en fait est déjà allé au Tibet, mais il n'a pas réussi à voir cette fameuse panthère. Ce voyage est un prétexte à réflexion, et on va avoir un récit contemplatif et autobiographique, car Sylvain Tesson parle de lui-même et profite des pauses pendant lesquelles il est à l'affût de la panthère pour proposer une réflexion philosophique. Il s'agit en fait de réfléchir à notre monde contemporain par un regard décalé depuis le Tibet. Dans notre passage, on est à peu près à la moitié du récit. Et en fait, Sylvain Tesson, Vincent Munier et ses autres compagnons ont déjà aperçu la panthère. Ils se trouvent, à ce moment-là du récit, donc dans un canyon à 4600 mètres d'altitude. Et en fait, ils sont hébergés par une famille d'éleveurs de yaks. Ils ont donc fait la connaissance des enfants de ces éleveurs. Le récit joue sur la temporalité, puisque on va avoir une photographie qui a été prise lors du voyage précédent de Munier et qui va permettre, cette photographie, de mettre en abîme le texte par l'image et va permettre un retour temporel avec l'analyse en fait d'une scène qui a été prise un an auparavant exactement au même endroit. L'observation de cette photographie va permettre au narrateur de se questionner autour des notions d'observation et de contemplation. On peut donc se demander en quoi cet extrait constitue une éducation au regard du lecteur. Et on va pouvoir délimiter deux parties dans le texte. La première partie qui va de la ligne 1 jusqu'à la ligne 14 et qui met en scène les enfants de cette famille d'éleveurs de yaks. Et la deuxième partie qui va être une série de réflexions à partir d'une photographie proposée donc dans le récit original. Alors, je commence l'analyse linéaire. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a au début du texte, à la ligne 1, une série de passés simples, et dans la ligne 1, dans les lignes suivantes, vinrent, allèrent, marchèrent, avec une succession de verbes dont les enfants sont les sujets, donc qui donnent du dynamisme au texte, qui permettent de mettre le texte en mouvement. Et ces enfants suivent un cheminement qui ne connaît pas d'hésitation, puisqu'on a à la ligne 3 l'adverbe exactement. On voit donc que les enfants débusquent Sylvain Tesson, qui se croyait caché, et donc on a un début de scène qui est assez comique parce que celui qui était à l'affût se trouve débusqué. Donc Sylvain Tesson, qui était à l'affût, se trouve débusqué. Il guettait la panthère. Il va s'apercevoir que sa cachette n'était pas si aussi judicieuse qu'il le pensait, puisque les enfants le trouvent sans hésitation. On voit que le meneur de ces enfants, donc Gampa, mentionné à la ligne 1, est le plus petit, mais qu'il est aussi celui qui est le plus valorisé en fait par Sylvain Tesson, car il est qualifié de démoniaque, mais il faut bien prendre démoniaque à la fois dans le sens positif et négatif du terme, donc démoniaque agité, digne d'être un démon, là ça sera le sens négatif. Mais le daimon aussi, dans la littérature, c'est celui qui est doué de génie. Et donc, ici, on peut considérer que Sylvain Tesson considère Gampa avec une certaine forme d'affection. En tout cas, il en parle au superlatif le plus, le plus. On voit que la marche des enfants est marquée par une succession de participes présents, chantant, caracolant, et par un participe passé, les cheveux au vent, avec une série de groupes nominaux, pardon, qu'on se retourne de participe passé, débraillés, emportés. C'est leur aspect en fait sauvage, proche de la nature, qui est mis ici en avant. On peut faire un parallèle avec le frère de Colette, Léo, qui lui aussi, dans Cido, est caractérisé comme un sauvage, mais dans un sens positif du terme, que ce soit pour Colette ou que ce soit pour Sylvain Tesson. On voit bien avec cette accumulation de verbes de mouvement ou de participe présent ou de participe passé que finalement ce que veut montrer Sylvain Tesson à travers ces verbes de mouvement, c'est que ces enfants sont libres, qu'il n'y a pas d'entrave à leur mouvement, avec débraillés, cheveux emportés par le vent. Ils ne sont pas corsetés en fait par une certaine forme d'usage qu'on va avoir en France par rapport à l'apparence qu'on peut avoir, et surtout qu'ils sont en harmonie avec la nature. Donc le regard que va porter Sylvain Tesson sur ses enfants est plutôt un regard bienveillant. Et en même temps, on va avoir dans ce passage une forme d'autodérision. On la trouve à la ligne 4, ruinant ainsi mes efforts de dissimulation, en prouvant que mes camouflages n'étaient pas au point. Et donc Sylvain Tesson va en prendre sa partie et va porter son attention sur les enfants. Il va renoncer pour le moment à chercher à voir la panthère. Et donc Sylvain Tesson éprouve une certaine forme d'admiration pour les enfants, puisqu'il mentionne à la ligne 5, avec un point d'exclamation, que ces derniers ont été capables de trouver sa cachette à 500 mètres de distance, ce qui permet aussi en fait de préciser la trajectoire suivie par les enfants avec ce complément circonstanciel de lieu et de distance. Et ça permet pour le lecteur de situer la scène. On est dans un lieu clos, restreint et en même temps ouvert sur la nature. Suit ensuite une description des enfants, donc qui sont croqués en deux adjectifs, vifs, ravissants. On insiste toujours sur le mouvement, sur leur capacité d'action en fait. Va s'en suivre une description qui est en comparaison avec les enfants du monde civilisé, entre guillemets, ou du monde européen, puisque ces enfants n'ont pas d'emploi du temps et qu'ils ne sont pas en fait soumis aux contraintes que connaissent les adolescents en France, par exemple. On peut remarquer qu'il y a un vocabulaire très amélioratif, avec limpide pour qualifier leur journée, par exemple, apprendre au sens propre et figuré, c'est-à-dire qu'ils ont des journées très, très organisées, très, très, sans organisation. On peut remarquer aussi qu'ils sont responsabilisés très jeunes, puisqu'ils côtoient l'INE 7 des bêtes fauves et des yaks. Les notions sur lesquelles insiste Sylvain Tesson vont être les notions à la ligne 8 de liberté, d'autonomie et de responsabilité. En effet, ils doivent surveiller le troupeau. Et on a une description assez comique parce que Sylvain Tesson, par des petits détails, morvonnait, sourire en coin, poil comme seconde mère, donc avec des images, des notations assez visuelles, permet en fait de montrer que ces enfants sont livrés à eux-mêmes, mais que ça leur donne de l'autonomie. Et la chute de la phrase à la ligne 9, un troupeau de géants à charge, joue en fait sur une disproportion entre la petitesse des enfants et la lourdeur des tâches qui leur est confiée, ce qui implique en fait une idée de maturité de ces enfants qui est sous-jacente dans tout le texte. Et en effet, on voit dans la suite du texte que ces enfants sont dans l'obligation en fait de se comporter comme des adultes, avec l'explication « porter un petit poignard à la ceinture et se serait défendu en cas d'attaque ». On a donc en fait affaire à des enfants qui sont très responsables, en dépit de leur aspect un peu sauvage. On va remarquer à partir de la ligne 10 qu'il y a une comparaison donc avec l'éducation qui est tellement importante dans ce texte donné aux enfants européens. En effet, ligne 10-11, Sylvain Tesson écrit « Il n'avait pas de conseiller d'orientation ». Alors, bien sûr, il y a un jeu sur le sens orientation. Ici, au sens propre, les enfants possèdent le sens de l'orientation, puisqu'ils doivent être autonomes dans les montagnes, mais ils n'ont pas d'adulte, en fait, pour les contraindre, comme pourrait le faire un conseiller d'orientation. On a ensuite une description rapide des lieux dans lesquels ils évoluent, donc des promesses de défilés, d'écoles ouvertes. Et on voit bien ici que le champ lexical de l'ouverture permet encore une fois d'insister sur la liberté dont bénéficient ces enfants. En fait, Sylvain Tesson insiste sur l'éducation libre par comparaison qu'ils connaissent par rapport aux enfants européennes, puisque à la ligne 13, on a la mention de la pédagogie. Le mot est écrit en italique. C'est une façon de dévaloriser la notion de pédagogie, parce que selon Sylvain Tesson, cette pédagogie est trop contraignante et elle enlève la gaieté aux enfants. Il s'agit ici de la mention qui est faite à la ligne 14. On a ensuite, à partir de la ligne 15, l'intervention d'un autre personnage, donc Munier, qui vient rejoindre le groupe et qui sort une photo en fait qui a été prise un an auparavant au même endroit. Il s'agit de montrer à ses enfants cette photographie. Et donc cette photographie, dans la suite du texte, va faire l'objet d'un commentaire, car il s'agit d'une photo qu'il faut déchiffrer, qu'il s'agit de décoder. Dans l'audition originale, on a un tirage papier et une photographie qui est reproduite avec beaucoup de soin. À partir de la ligne 16, donc, on a une description de cette photographie d'une façon classique, avec de nombreux connecteurs spatiaux au premier plan, en arrière, à gauche, derrière. Donc il s'agit en fait pour le lecteur de spatialiser en fait la scène, et ça va aider le lecteur à décoder cette photographie. Mais le paradoxe de cette photographie, comme l'explique le texte, est qu'il y a un élément qui, donc la panthère, qui est invisible ou qui est caché. Et donc on a un jeu sur le regard, le champ lexical de la vision est très important, avec invisible, regard, yeux fixants. Il s'agit donc ici d'une mise en abîme, puisque l'expérience de Munier confrontée à cette photographie va devenir celle du narrateur, celle du narrateur devient ensuite l'expérience du lecteur, puisque à la fois Munier, le narrateur, donc Sylvain Tesson, et ensuite le lecteur vont être invités à décrypter cette image. Donc sur cette image, Munier explique en fait qu'il n'a pas vu la panthère, et donc on a une forme d'inversion, c'est la panthère qui est à l'affût, c'est elle qui regarde sans être vue et qui donne ainsi une leçon aux humains. Donc la tête, on a la description de la panthère à la ligne 18, ce qui permet au lecteur de la repérer. La tête de l'animal s'incorporait au roc et l'œil mettait un temps à l'indistinguer. À partir de cette observation, l'étude de cette photographie va permettre à Sylvain Tesson d'en tirer une dénonciation, en fait une forme de réflexion qui est une dénonciation de l'ethnocentrisme des humains, qui va replacer les êtres humains à leur juste place. Nous ne sommes pas au centre de la nature, notre regard n'est pas central, nous sommes aussi dans la nature observée. Donc cette leçon va se faire en deux temps. À partir de la ligne 23, on va avoir... À partir de l'adverbe « d'autre part », le narrateur quitte la narration pour la réflexion. Les êtres humains doivent accepter d'être observés. Il y a une nécessité en fait d'être passif, hein, d'où la forme passive « nous sommes regardés », le verbe au passif. Et l'usage du « nous » et du présent a une valeur généralisante, ainsi que l'adverbe « toujours ». Le lecteur va se trouver impliqué dans cette nécessité d'éducation du regard. Le narrateur ensuite revient sur le regard des enfants avec l'adverbe « d'autre part » et il va nous expliquer en fait que l'enfant est moins conditionné, c'est à la ligne 24, que l'adulte, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas soumis à des a priori et leur regard donc est plus affûté ou plus juste que celui des adultes, simplement en fait parce que ils ont un regard qui est plus innocent. Et cette idée est illustrée dans le texte à la ligne 25, puisque les enfants tibétains immédiatement identifient la panthère et hurlent leur nom en tibétain, Sa'a, donc à la ligne 25. En fait, la retranscription de la réaction des petits tibétains donne de la vie et de la véracité au texte. On a donc une conclusion à cette analyse de la photographie qui est que, en fait, c'est expliqué à la ligne 27, il s'agit en fait de se laisser porter par l'imagination et de décoder ce qui n'est pas tout à fait visible à l'œil nu. C'est ce que Sylvain Tesson explique lorsqu'il affirme qu'ils exploraient les périphéries du réel, c'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas tromper par une apparence première, une image figée. Et donc, Sylvain Tesson, à la fin du texte, en tire une définition de ce que c'est que le regard, et en particulier de ce que c'est que le regard artistique. La définition est la suivante, sous forme de maxime, « voir les fauves cachées derrière les paravents banals ». Il s'agit ici de montrer que l'art, en fait, permet de voir ce qui est inattendu, et la notion de fauve cachée renvoie bien sûr à la panthère de la photographie, de voir en fait sous ce qui paraît normal, banal, eh bien, une possibilité d'imagination et de réflexion. Alors en conclusion, ce récit s'inscrit dans une tradition qui est celle du récit de voyage, dans lesquelles on peut, à travers un récit de découverte, donner une dimension philosophique à son témoignage. C'est ce que fait ici Sylvain Tesson en réfléchissant sur la notion de regard. Mais cette éducation du regard est possible car les adultes se montrent disponibles à l'écoute des enfants du texte, ce qui va leur donner à eux une possibilité d'en apprendre plus en se mettant à l'écoute des enfants. C'est un récit didactique et plaisant, avec un vocabulaire simple et poétique, avec de l'humour pour mieux faire passer le message. Et il faut bien revenir sur la notion que ici le texte et l'image sont indissociables, car le texte ne peut pas être compris sans l'image, mais l'image constitue une sorte de mode d'emploi du texte. En ouverture, on peut faire un parallèle avec Colette et Sido, puisque Sido est un personnage qui elle aussi est à l'écoute du monde, qui use de ses sens et qui sait regarder le monde de façon différente et avec humour. Voici l'enregistrement pour le texte 4 de Gargantua. Il s'agit des Caprices de la mode. C'est un texte de Montesquieu, extrait des Lettres persanes en 1721. Alors, quelques informations sur Montesquieu qui ne sont pas nécessaires pour votre introduction. Il est né dans une famille d'aristocrates, de gentilshommes vignerons dans le Bordelais. Il a étudié le droit et il entreprend la rédaction des Lettres persanes, qui est un roman épistolaire, donc par lettres, qui est publié anonymement en 1721 à Amsterdam. Montesquieu est également l'auteur de L'Esprit des lois, qui est un livre qui fait des propositions de loi. Et donc, avec la rédaction des Lettres persanes, on a un livre de divertissement, mais qui est un livre aussi qui permet d'observer, de comparer les systèmes et les usages politiques, parce que l'intrigue du récit est le suivant. Persuadé que les voyages forment la jeunesse, deux persans, Rika et Usbek, quittent Ispahan, donc la Perse, et se rendent à Paris. Et donc ils font l'expérience des coutumes et des modes de vie des Français en observateurs étrangers. Donc ils ont donc un regard naïf, étonné, sur la France. Et l'intérêt de ce mode de narration est de porter un regard nouveau et de multiplier les points de vue sur la société française. Ce qui permet bien sûr à Montesquieu de faire une critique de la société, mais ce par le biais d'une argumentation indirecte. Et donc on va avoir des extraits qui sont souvent des satires mordantes de cette société française du XVIIIe siècle. Les Lettres persanes est vraiment un roman caractéristique de la littérature des Lumières. Alors on peut se demander dans le texte comment Montesquieu, par le biais de la mode, puisqu'il s'agit du sujet ici de notre texte, fait une critique de la société française, et même une critique forte, puisqu'il va même jusqu'à critiquer le roi. Donc j'ai oublié de préciser, je reviens un peu en arrière, excusez-moi, qu'il s'agit de la lettre 99, et qu'ici, il s'agit d'une lettre qui va faire la description de la mode en se moquant de deux aspects de cette mode, la rapidité des changements de la mode et le ridicule des costumes et de certaines coiffures en particulier. On peut considérer qu'il y a trois parties dans le texte, de la ligne 1 à 4, une introduction qui met en scène le narrateur, ensuite de la ligne avec la réponse à une question rhétorique de la ligne 5 à la ligne 6, qui fait donc cette réponse fait toujours partie de ce premier mouvement. Ensuite, donc une description amusée des extravagances de la mode, de la ligne 7 jusqu'à la ligne 20. Et ensuite, un paragraphe assez déconcertant qui parle du roi et qui critique le roi de façon assez directe, ceux de la ligne 21 jusqu'à la fin du texte. Alors, je commence l'analyse linéaire. On peut remarquer tout d'abord qu'on a la présentation d'une lettre avec l'expéditeur, le destinataire marqué en haut de la lettre, Rica Arredi à Venise. Et à la fin de la lettre, la mention de l'endroit d'où est expédiée cette lettre, à Paris, avec une imitation du calendrier persan, le 8 de la lune de Safar. Il s'agit bien sûr d'une notation fantaisiste, mais on a par contre une date exacte, 1717, qui permet pour les lecteurs d'ancrer cette lettre dans un contexte contemporain. Et donc, il s'agit bien sûr d'amuser le public parisien en faisant la description de cette mode. Ligne 1, on peut remarquer qu'on a tout d'abord un avis relativement objectif de l'énonciateur, donc Rica, je trouve, et qui va donner la thématique du texte, son étonnement, donc étonnant. Mais le mot caprice est assez connoté, puisque c'est un vocabulaire qui va montrer le côté enfantin du comportement des Français. Et en effet, ici, il s'agit bien sûr de dénoncer les caprices de la mode, mais également les caprices des comportements des Français. On peut remarquer que la notation chez les Français est amusante parce qu'elle elle montre finalement un point de vue ethnologique mis en valeur par l'incise entre donc les deux virgules chez les Français, un point de vue ethnologique sur les Français et donc un regard distancié. Ensuite, la suite du texte permet de parler des Français avec une certaine forme de distance parce qu'ils sont désignés par le pronom ils ont oublié, ils ignorent. Et on peut remarquer qu'il y a une sorte d'accélération du temps, puisque la première partie de la phrase qui commence à la ligne 1 et finit à la ligne 3 parle et se termine par un complément circonstanciel de temps cet été, et que la deuxième partie de cette phrase se termine par un complément circonstanciel de temps cet hiver. Autrement dit, on est passé de l'été à l'hiver dans un temps très rapide, en même pas une phrase. On peut remarquer que Montesquieu utilise la généralisation avec ce « il » au pluriel et des présentes vérités générales. Par exemple, « ils ignorent » ou bien « combien il en coûte ». Et donc, il est ici question de mettre en défaut ou de pointer la rapidité, en fait, des changements vestimentaires, l'instabilité des coutumes vestimentaires chez les Français. On peut remarquer que la logique de Rica est d'aller de surprise en surprise, et on peut remarquer que cette surprise est appuyée par la progression logique des connecteurs, encore plus, mais surtout. Donc en fait, Rica n'est pas si naïf qu'il veut bien le montrer, et sa surprise en fait masque l'ironie dont il va faire preuve dans la suite du texte. La question rhétorique qui suit, que me servirait de te faire une description, est une sorte de prétérition, puisqu'elle est immédiatement résolue par la réponse qu'il apporte lui-même. Et après avoir pointé donc la rapidité de la mode et le coût de cette mode, ici, dans les lignes 5 à 6, il va faire une comparaison entre la mode. Il va expliquer en fait à l'aide de la polysémie du mot ouvrage que son ouvrage, donc son livre, est comme les ouvrages architecturaux dont il sera question plus tard dans la lettre, c'est-à-dire qu'il serait détruit à peine commencé à cause de la rapidité des changements de la mode. Et donc il nous donne une explication au moyen d'une comparaison comme celui des ouvriers. Les ouvriers, ce sont ceux qu'on va retrouver dans la suite la lettre. Le subjonctif puisque parfait, associé au conditionnel passé, avant que tu eusses reçu ma lettre, tout serait changé, montre en fait une époque avec des références qui sont en perpétuelle mutation, une forme d'urgence assez insensée qu'on pourrait comparer à notre frénésie de consommation contemporaine, et donc on a un texte qui est relativement contemporain. Ensuite, Ricard va se lancer dans une véritable satire de la mode française à partir de la ligne 7. Et donc Ricard, qui auparavant a parlé des hommes et des femmes, ne va plus désormais parler que des femmes, et il s'intéresse à l'une d'entre elles avec l'article indéfini une, donc ligne 7, une femme. Mais en fait, il ne la nomme pas et donc il lui donne une portée générale, ce qui est le principe de la caricature. On a une peinture assez cocasse de la fulgurance des effets de la mode. En effet, on a le vocabulaire du portrait avec peintre, représenté, peinte, portrait. Et en fait, Ricard, mais Montesquieu par le biais de Ricard, s'amuse à vieillir cette femme prématurément en la momifiant dans une époque très reculée de l'histoire, donc antique, et donc l'adjectif antique porte l'ironie du texte, qui s'oppose bien sûr au complément circonstanciel de temps, 6 mois. On peut remarquer que Ricard use de beaucoup d'hyperboles, le fils méconnaît le portrait de sa mère, et on peut souligner qu'on a une sorte de télescopage des temps, puisqu'on a, comme dans le paragraphe précédent, des oppositions temporelles, 6 mois opposés à 30 ans, ou des oppositions aussi, des modifications géographiques. Le fils s'imagine que sa mère française devient quelque américaine, ici le déterminant quelque a une valeur péjorative. Et donc ces télescopages vont se produisent de façon très précipitée dans le texte et entraînent un rythme rapide qui montre en fait la frénésie de mode au lecteur qui lit ce texte. On peut remarquer que dans la suite du texte, la multitude des connecteurs de temps traduit l'incapacité de Ricard à rendre compte de façon chronologique des modes qui sont en vogue à Paris, avec quelquefois, tout à coup, le lendemain, autrefois, aujourd'hui, tout va trop vite pour pouvoir rendre une chronologie exacte. Alors, après avoir fait le portrait de cette femme, Ricard va s'intéresser à des aspects particuliers de la mode, par exemple les coiffures, et donc on va avoir le champ lexical de l'habillement et de la coiffure, et on a une sorte d'hypotypose au présent qui permet au lecteur de visualiser la scène. Donc les coiffures montent insensiblement à la ligne 11, ou bien l'effet descend tout à coup, qui est basé sur un jeu d'opposition. Il a été un temps que leur hauteur immense mettait le visage d'une femme au lieu d'elle-même. Dans un autre, c'était les pieds qui occupaient cette place. Et donc ce jeu d'opposition et ces changements constants avec un jeu autour de la silhouette de la femme, finalement, permettent au lecteur de visualiser cette femme comme un pantin auquel on ajoute ou on enlève des accessoires selon les modes. On est ici vraiment purement dans l'art de la caricature, puisque en quelques traits et avec quelques accessoires, finalement, eh bien Montesquieu parvient à nous rendre compte de cette fantaisie et de cette mode extrême qui est en vogue à Paris. Et donc on finit par finalement les pieds qui prennent la place du visage. Alors, à la ligne 14, on a une autre question rhétorique qui pourrait le croire, mais comme dans la précédente question rhétorique, Montesquieu ou Ricard va y répondre. Et là, on a un exemple encore hyperbolique, très exagéré, qui fait référence à une réalité de l'époque, puisqu'effectivement, les portes ont été élargies et baissées selon la largeur des robes des femmes. Le mot fantaisie à la ligne 7 est un bon résumé de cette mode capricieuse qui implique des changements architecturaux. Donc l'ensemble de cette description fait penser à un sketch avec des phrases courtes et cadencées. Dans les dernières lignes de ce paragraphe, donc à partir de la ligne 16-17, Montesquieu s'attaque à des caractéristiques physiques et à des accessoires en mentionnant les mouches que les femmes se mettaient avec l'hyperbole quantité prodigieuse. On a toujours un jeu d'opposition avec les mouches qui apparaissent puis disparaissent dans la même ligne. Montesquieu va même jusqu'à mettre en question l'aspect physique des femmes, puisqu'il conclut que, après avoir dit que les femmes avaient de la taille des dents, que la mode affecte la nature profonde des individus, puisque de génération en génération, ligne 19-20, les filles se trouvent autrement faites que les mères, et bien les individus féminins vont totalement avoir une physionomie différente. Il s'amuse aussi à la ligne 19 à se faire le colporteur de la rumeur ou des gens qui évoquent la mode en évoquant les mauvais plaisants. Le texte ensuite paraît basculer. En effet, nous sommes en train de rire dans une sorte de comédie caricaturale avec à la ligne 19 un groupe nominal changeante nation qui résume bien l'esprit des Français. Lorsqu'on bascule dans le dernier paragraphe à partir de la ligne 21, sur un sujet totalement différent. Les Français changent de mœurs selon l'âge de leur roi, et donc le lecteur est surpris, se demande pourquoi il est mention du roi, qui est mentionné de façon récurrente dans cette dernière ligne, puisqu'il est question du roi, du monarque, du prince et de l'âme du souverain, à chaque début de phrase dans ce paragraphe. Donc le sujet du roi est abordé par le biais d'une comparaison à la ligne 21, au début de la ligne 21. Il en est des manières et de la façon de vivre comme des modes. Donc ici, l'idée que les Français vont changer leur comportement en fonction de l'âge de leur roi, de la même façon qu'ils ont changé leurs habitudes vestimentaires en fonction des modes. Et donc il faut savoir qu'à l'époque, Louis XIV est mort en 1715, il avait 77 ans, et que donc c'est Louis XV qui a pris le pouvoir, mais il n'a que 5 ans, il est donc en régence, et ce que dit Montesquieu, c'est que les Français doivent s'adapter à un roi très âgé ou à un roi très jeune. Il s'agit en fait de dénoncer la monarchie en elle-même, puisque le principe de la monarchie implique que le souverain, que les Français doivent accepter leur souverain, quel qu'il soit, quel que soit son état mental ou par exemple son âge et donc ses capacités à gouverner. On peut douter la capacité à gouverner à l'époque de quelqu'un d'aussi âgé ou de quelqu'un d'aussi jeune. À la ligne 22, Montesquieu reproche en fait aux Français d'être totalement asservis en se moquant d'eux, puisqu'il dit le monarque pourrait même parvenir à rendre la nation grave s'il l'avait entrepris. Autrement dit, la frivolité qu'il vient de dénoncer des Français, eh bien, il dit que le roi pourrait réussir à la résoudre s'il en avait la volonté, mais il ne semble pas en avoir la volonté puisqu'il a le conditionnel « pourrait ». Et donc, ce qui est développé dans la suite du texte, c'est le pouvoir du roi sur ces sujets, avec un vocabulaire assez fort, imprime, caractère, moule, qui implique en fait une contenance du roi envers ces sujets. Et donc, ce qui est dénoncé, c'est la passivité des Français vis-à-vis de leur roi, mais aussi la monarchie absolue qui donne tous les pouvoirs au roi. Et donc, on va avoir une dénonciation directe de ce pouvoir tel qu'il est exercé en 1917. On peut remarquer que le style est toujours très rapide, avec à la cour à la ville à aux provinces. Il s'agit d'une anadiplose qui donne un rythme soutenu, rapide à ce texte. Et donc, finalement, à travers l'exemple de la mode, c'est le manque de liberté des sujets du roi qui est ici dénoncé, et finalement leur servitude volontaire. Alors, en conclusion, on a un texte qui cherche à plaire et à instruire. On retrouve ici l'idéal du XVIIe siècle, mais adapté à la réalité du XVIIIe siècle, et plus particulièrement à ce début du siècle des Lumières. On est vraiment tout à fait au début du XVIIIe siècle, qui est une période charnière pendant laquelle naît l'esprit des Lumières. Donc le plaisir de lire se manifeste dans le sujet choisi qui est léger et la manière de le traiter par des anecdotes amusantes de mode plus ou moins ridicule. Mais Montesquieu utilise le personnage du persan pour critiquer le peuple français et critiquer également le pouvoir absolu du roi. Donc cette critique se fait par le détour d'une histoire plaisante, fondée sur le comique mais aussi sur l'ironie, et cette ironie est l'arme philosophique par excellence au XVIIIe siècle pour critiquer et faire réfléchir. On peut donc faire un parallèle avec des contes de Voltaire comme Candide par exemple. On peut aussi, par rapport à la thématique traitée, penser à Gargantua au chapitre 8, qui est un long chapitre qui décrit l'habillement du jeune géant avec humour. Voilà. Voici l'enregistrement pour le texte d'Arias. En introduction, il faut rappeler que Les Caractères est une œuvre publiée en 1688 et que c'est la seule œuvre de La Bruyère qui a consacré toute sa vie. On est donc au XVIIe siècle, c'est le siècle de la mesure, de l'ordre, de l'idéal, surtout de l'honnête homme. Et est honnête homme celui qui, ou honnête femme, celui ou celle qui sait être mesurée, polie, savant, qui ne fait pas preuve de pédantisme, c'est-à-dire d'un savoir exagéré, et qui sait savoir s'adapter. On peut noter aussi qu'à l'époque, c'est Louis XIV qui est le roi et qu'il a autour de lui toute une cour et que les courtisans cherchent à être vus et remarqués par le roi. Si l'on s'intéresse à ce passage, donc Arias, il s'agit du portrait d'un personnage qui va monopoliser la conversation. On peut noter que Jean de La Bruyère est un moraliste, c'est-à-dire qu'il donne des leçons, souvent en faisant des portraits brefs, rapides et incisifs, comme c'est le cas dans notre texte pour Arias, en caricaturant des comportements qu'il a pu remarquer en société. Donc, le passage se situe dans le livre 5, dont le titre est « De la société de la conversation », et il traite donc des relations humaines, et plus particulièrement des conversations. Nous sommes confrontés à un récit épidictique. Épidictique, ça veut dire louer ou blâmer, et s'il s'agit du blâme, qui se termine par une chute, sans morale, mais cette morale est à établir par le lecteur. Donc on peut se demander comment La Bruyère fait-il le portrait du contraire d'un honnête homme, ou comment le portrait d'Arias fait-il la critique du courtisan du XVIIe siècle. Alors le premier mouvement, on va avoir l'antiportrait de l'honnête homme, de la ligne 1 jusqu'à éclater à la ligne 7, et le deuxième mouvement, l'intervention d'une opposition, c'est-à-dire une contradiction et la chute qui va de la ligne 14 jusqu'à la ligne 16. Alors, dans le premier mouvement, on est confronté à un texte court qui prend l'aspect d'une scénette comique et qui va dessiner de façon indirecte le portrait d'un personnage, mais un personnage en action, et qui va donner son nom au texte. Donc Arias est le premier mot qui est prononcé dans le texte, ce qui montre l'égocentrisme du personnage. Et le texte, au départ en tout cas, est au présent de vérité générale, ce qui met Arias dans la catégorie du stéréotype, c'est-à-dire qu'il va incarner une catégorie particulière d'individus. On peut remarquer que Arias est caractérisé dès la première ligne du texte, à tout lu, à tout vu, avec une répétition hyperbolique de tout. Le personnage est excessif et démesuré. On peut remarquer également que la suite de la phrase est construite de la même façon. On a tout d'abord une affirmation, donc Arias a tout lu, a tout vu, puis c'est un homme universel. Et ensuite, on a dans la deuxième partie de la phrase, qui est construite de façon binaire, une contradiction ou un démenti de ce qui a été dit précédemment. Par exemple, Arias a tout lu, a tout vu. Il veut le persuader ainsi, démenti, qui montre qu'on a un narrateur qui, de façon implicite, va juger Arias. Et dans la deuxième partie de la phrase, c'est un homme universel et il se donne pour tel. Même chose, le doute est insinué puisqu'il s'agit en fait de montrer par « il se donne pour tel » que c'est la vie personnelle d'Arias et que ses paroles sont fausses. On va avoir en fait le caractère d'un personnage théâtral qui privilégie le paraître à la façon d'être, une façon d'être honnête. Ligne 2, on va avoir la description de sa ligne de conduite générale. Il aime mieux mentir que de se taire. Et donc, on va avoir le champ lexical du mensonge. Mentir, paraître, ignorer quelque chose. Ici, le « on » sert à énoncer une généralité. À la ligne 3, on passe à un cas particulier, donc à un dîner en particulier, un dîner qui semble être entre courtisans ou entre personnages importants, puisqu'il se situe à la table d'un grand, mais on est toujours dans la généralité, on n'a pas de précision, et d'une cour du Nord. Et donc on va avoir le portrait d'Arias en action. Celui-ci se montre d'une grande impolitesse. Ligne 3-4, il prend la parole. Et l'hôte à ceux qui allaient dire ce qu'ils en savent. Donc on a ici des actions rapides qui se succèdent, prendre, ôter. Et surtout, on voit qu'il monopolise l'attention au détriment de personnes qui, elles, ont la connaissance, dire ce qu'ils en savent. On a ensuite une description de sa conversation qui est racontée de façon plaisante, un petit peu à la façon d'un récit de voyage, Oriente, région lointaine, originaire. On peut remarquer que Arias s'approprie la région dont il est question, avec le démonstratif « cette région, cette cour ». Et il se l'approprie, on le voit aussi avec la comparaison à la ligne 5, comme s'il en était originaire. On voit qu'il aborde les généralités qu'on dit en général lorsqu'on décrit un pays. Ligne 6, les femmes, le pays, ses lois, ses coutumes. Mais on peut remarquer aussi qu'il y a très peu de précision dans ses propos et que donc il n'a pas de connaissances précises sur le sujet. Il se contente de discourir en fait pour occuper l'attention et monopoliser la conversation. À la ligne 7-8, il se montre excellent comédien, réciter des historiettes, et il se montre en fait spectateur également de son propre discours. Ligne 8, il en rit le premier jusqu'à éclater. Il fait preuve en cela de beaucoup d'impolitesse. Il est son propre public, mais il va jusqu'à rire à ce qu'il dit lui-même, ce qui, bien entendu, est un comportement impoli et mal vu au XVIIe siècle et qui montre en fait sa volonté de domination, son omniprésence. Cette omniprésence est marquée dans tout le paragraphe par l'usage du pronom « il » et par la longueur de la phrase qui va de la ligne 1 jusqu'à la ligne 8, qui retranscrit en fait la longueur du discours d'Arias et le fait qu'il monopolise encore une fois la conversation. On a donc en très peu de lignes un portrait d'Arias en action qui est un portrait bien sûr qui est du côté du blâme, hein, qui va juger ou amener le lecteur à porter un jugement sur Arias. À partir de la ligne de 8, on va avoir un nouveau personnage qui apparaît, un contradicteur. Quelqu'un se hasarde de le contredire. Le verbe « hasarder » contraste avec les verbes précédents puisqu'il marque une politesse, une hésitation à prendre la parole. Mais on voit que cette personne, qui n'est pas nommée, quelqu'un, il s'agit en fait de ménager le suspense sur l'identité de ce nouveau personnage, et ça montre aussi l'indifférence d'Arias à l'identité des autres. Cette nouvelle personne, donc, à la ligne 8, elle s'appuie sur des paroles claires, puisqu'on a l'adverbe « nettement » qui va montrer que cette personne maîtrise son discours. Et on va avoir le champ lexical de la vérité, « contredire », « prouve », qui ne sont pas vrais. Donc, on a un personnage qui montre une retenue dans le langage par rapport et une volonté de vérité. Cela contraste avec le comportement d'Arias lui-même. On a ensuite, à partir de la ligne 9, la réaction d'Arias, qui est une réaction attendue. Il ne se trouble point. Et on a une hyperbole, « prend feu », qui montre le côté impulsif, irraisonné en fait d'Arias. C'est le comportement inverse de celui d'un honnête homme qui doit garder de la mesure et du calme en toute mesure. À la ligne 10, l'expression interrupteur, qui va désigner la personne qui ose interrompre Arias, est une périphrase, ou, pardon, est un néologisme inventé par Arias et qui a une valeur péjorative pour désigner ce contradicteur. On passe ensuite au discours direct, alors qu'on n'avait jusqu'à maintenant que du discours indirect, et on va entendre mieux la parole d'Arias et on va pouvoir examiner sa stratégie argumentative. Alors, en fait, à la ligne 11, il se protège par un argument d'autorité, puisqu'il dit qu'il a appris de Cethon, ambassadeur de France, qui est donc la personne de référence en connaisseur du pays étranger dont il est question. Il montre que il est extrêmement familier de ce personnage, à la ligne 12 que je connais familièrement. Il montre la rigueur de sa démarche, que j'ai fort interrogée, et il montre enfin qu'il connaît tout, ne m'a caché aucune circonstance. Alors on peut remarquer qu'on a une accumulation dans cette phrase de propositions qui vont donner une sorte de crédibilité au discours d'Arias. Que je ne sache, que je connais familièrement, que j'ai interrogé, qu'il ne m'a caché aucune circonstance, et qu'on a ici une accumulation aussi de formes négatives qui en fait ont une valeur de persuasion. Je ne raconte rien qui ne m'a caché aucune circonstance. Donc ces doubles négations ont valeur d'affirmation. Et le discours direct, en fait, permet de montrer le mensonge qui va se développer sous nos yeux. Le lecteur est rendu complice de la scène et la chute va pouvoir arriver. Et encore une fois, on peut remarquer que Arias se montre prétentieux et vantard, et on n'a plus une anaphore du « il » comme on avait précédemment dans le premier paragraphe, mais une anaphore du « je ». « Je n'avance, je ne raconte, je l'affirme, je connais familièrement, j'ai fort interrogé », qui montre encore une fois le côté prétentieux, vantard du personnage, qui s'exprime de façon très catégorique. Alors, on passe ensuite à la ligne 14, donc avec un imparfait, il reprenait le fil de sa narration, et donc une rupture, on repasse au discours indirect. L'imparfait a une valeur durative, et en fait on a l'impression que Arias veut reprendre le monopole de la parole en faisant durer son discours et surtout en faisant comme s'il n'y avait pas eu d'interruption. Ce que montre le comparatif, plus de confiance qu'il ne l'avait commencé. Mais on va en avoir ensuite la chute. Donc c'est Cethon à qui vous parlez lui-même et qui arrive de son ambassade. Donc ligne 15-16, on a la révélation de l'identité du contradicteur d'Arias. Il s'agit donc de Cethon qu'il prétend bien connaître. Cette chute est comique puisque cela met à nu le mensonge d'Arias et montre qu'il ne connaît pas du tout Cethon. Le nom de Cethon est mis en valeur par le gallicisme « c'est Cethon à qui vous parlez ». La rapidité de cette chute en accentue en fait le côté comique. On peut remarquer enfin que tous les convives semblent alliés avec Cethon, puisque ce n'est pas Cethon lui-même qui prend la parole, mais l'un des invités, et que donc Arias, finalement, par un retournement de situation inattendu, va être la risée de toute la table. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on va avoir une caricature de l'homme de cour ou un portrait d'anti-honnête homme, et qu'ici, on a réellement, avec cette chute, une satire d'un courtisan qui est pédant. Alors, on peut remarquer que ce portrait est général intemporel, on pourrait très bien l'appliquer à notre époque à nous, et il suppose une morale. C'est le cas souvent de la littérature au XVIIe, c'est un peu comme dans les fables de La Fontaine, on a une petite histoire qui est mise en scène, avec des personnages mis en scène, et puis ensuite on en retire un côté pédagogique. L'auteur en fait doit plaire et toucher, et châtier les mœurs en faisant rire. Il ne faut pas devenir comme Arias, c'est la morale de cette histoire. Et il y a également une critique de cette société qui va tolérer des personnages tels que ceux tel que se comporte Arias. En fait, on peut même voir une sorte d'accusation dans cette petite scène à la cour. Bien, il vaut mieux se taire que de dire des bêtises, mais souvent les courtisans vont dire des bêtises. Et la notion de conversation est très importante à l'époque pour le savoir-être. Alors, on peut faire un parallèle avec Gargantua, dans lequel souvent la parole apparaît comme un peu folle, comme non maîtrisée, mais qui va faire l'objet d'une attention très particulière, puisqu'il s'agit non pas d'être un honnête homme comme au XVIIe siècle, mais d'être un humaniste, c'est-à-dire d'avoir une parole qui soit une parole réfléchie, même si souvent chez Gargantua, elle se cache sous l'apparence de la folie ou du débordement. Et chez Gargantua aussi, on a très souvent des caricatures avec des morales qui doivent être connues du lecteur.